Chers amis, bonjour. Notre exposé aura aujourd'hui pour sujet un des chefs-d'œuvre de la littérature poétique, un des livres les plus enrichissants de la Bible. J'ai nommé le livre de Job. Malheureusement, le livre et son message, comme la plupart des autres livres de la Bible, sont très mal connus. La mémoire populaire a bien retenu cette expression « pauvre comme Job », mais je doute fort que ceux qui l'emploient en connaissent tous l'origine. Nous n'insisterons pas sur le caractère poétique de cette page biblique. Il n'est que trop évident à celui qui veut se donner la peine de lire, mais sur son caractère profondément humain. Le livre de Job est l'histoire d'un homme qui avait tout pour être heureux et qui touche du jour au lendemain aux limites de la douleur et de la détresse humaine. Coup sur coup, on vient lui apprendre que ses troupeaux ont été enlevés les uns après les autres et ses serviteurs décimés par des pillards. Le coup est terrible. Imaginez un homme d'aujourd'hui à qui son comptable vient annoncer qu'il est ruiné. Au même moment, un messager essoufflé vient lui apprendre qu'un cyclone a détruit la maison où s'étaient réunis ses enfants. Ils sont tous morts sous les décombres. C'en est trop. Le vieil homme est terrassé par la douleur. Il avait 7 fils et 3 filles. Il était riche. Il n'a plus rien. Alors, en pleurant, il se tourne vers Dieu et prononce cette grande phrase « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retourne dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Ce que Job ignore, c'est qu'il est l'objet d'une sorte de pari entre Dieu et l'accusateur, car c'est ce que signifie le mot Satan. Certes, Job était juste et droit devant Dieu. Mais sa piété n'était-elle pas intéressée, car il était riche et béni ? Touche à tout ce qui lui appartient, dit Satan, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Nous venons de voir comment Dieu a relevé ce défi, et comment le coup porté au bien de Job n'a pas pour autant entamé sa confiance en la justice de Dieu. Satan ne se tient pas pour battu. Il prétend que si la foi de Job est demeurée intacte, elle se changera en malédiction, si l'on atteint l'homme jusque dans sa chair. Dieu dit « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » C'est alors que le pauvre Job fut frappé d'une sorte de lèpre qui s'étendait depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Il était si horrible à voir que ses amis ne le reconnurent même pas et que sa femme l'encouragea à maudire Dieu. Mais Job lui répondit « Tu parles comme une folle. Si nous accueillons le bonheur comme un don de Dieu, comment ne pas accepter de même le malheur ?» Mais l'épreuve n'était pas à son terme. Ayant appris tous les malheurs qui étaient arrivés à Job, 3 de ses amis viennent le voir pour le consoler et pour le plaindre. Ils trouvent leur ami assis dans la cendre, méconnaissable, prostré, souffrant. Pendant 7 jours et 7 nuits, ils se tiennent près de lui sans dire un seul mot. C'est Job qui brisera ce silence, et son cri qui a mûri pendant tout ce temps présente tous les symptômes de la dépression nerveuse. « Périsse le jour où je suis né. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Je serai couché maintenant et je serai tranquille. Je dormirai, je reposerai. Pourquoi Dieu donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, qui espèrent en vain la mort et qui la convoitent plus qu'un trésor? Mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. » Dans ce passage, Job déverse son âme douloureusement meurtrie. L'on a dit que ce chapitre épuise toutes les expressions d'une agonie. Job voudrait être mort. Il voudrait n'avoir jamais été. Il appelle la mort comme une délivrance. Quel est l'homme en notre 20e siècle qui, ayant connu les déchirements de la douleur physique et morale, n'a pas reconnu son propre cri dans cette lamentation du patriarche Job? Dans ce texte, nous sommes en face d'un homme qui souffre et dont les réactions sont normales. autant nous sommes un peu décontenancés devant son attitude héroïquement, surhumainement résignée lorsque le malheur le frappe coup après coup de plus en plus fort, autant nous nous retrouvons dans son désespoir. On le comprend et on le plaint. Notons en passant que jamais l'existence de Dieu n'est mise en question. En fait, les textes de l'Ancien Testament ne s'attardent jamais à prouver l'existence de Dieu. Ce fait est attesté une fois pour toutes et considéré comme allant de soi. Les psaumes font seulement cette remarque « L'insensé a dit en son cœur, il n'y a point de Dieu ». La grande détresse de Job réside surtout en ce qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il a toujours essayé d'être intègre, juste, pour l'amour de son Dieu. Alors, pourquoi est-il ainsi châtié ? Et il va ici frôler le doute quant à la justice même de Dieu. Les trois amis vont maintenant prendre la parole à tour de rôle. Chacun parlera trois fois, et Job répondra immédiatement à chaque discours. Voici brièvement le sujet de leurs remarques. Comme Job, ils avaient coutume de croire que la santé, l'abondance et la longévité étaient autant de signes tangibles, concrets, de la faveur de Dieu. Par contre, le malheur était une preuve de sa colère. Or, si Job est ainsi horriblement frappé, c'est que son péché doit être grave. La punition divine est toujours proportionnée à la faute. Job, tu as dû faire quelque chose de terrible. Cherche bien. Et si tu te repens, Dieu remplira de nouveau ta coupe. Job sait très bien qu'il ne peut rien contre ce raisonnement. Les faits sont là, apparemment. Il souffre, donc il a péché. Mais il fait éclater le cri de sa conscience, qui se révolte. Il n'a rien fait qui puisse mériter un tel châtiment. Il passe sa vie en revue, minutieusement. « J'étais l'œil de l'aveugle, dit-il, et le pied du boiteux, le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. » Il n'a pas refusé aux pauvres ce qu'il demandait. Il n'a pas fait languir les yeux de la veuve. Il n'a pas mangé seul son pain, mais il a donné sa part à l'orphelin. Il a réchauffé l'indigent avec la toison de ses agneaux. Il ne s'est pas laissé séduire par les richesses. Si encore il s'était réjoui du malheur de son ennemi, ou s'il avait sauté d'allégresse quand les revers l'ont atteint. Mais non. Alors, il s'écrie « Voilà ma défense toute signée. Que le Tout-Puissant me réponde. Oh, si je savais où le trouver. Si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments, et je serais pour toujours absous par mon juge. » C'est le cri d'un homme qui cherche le sens de sa souffrance. C'est tout le problème de la souffrance de l'innocent qui est ici posé. Ses amis, nous l'avons vu, ont d'abord essayé de lui montrer que sa douleur ne peut être que la conséquence du péché qui est en lui, inavoué mais présent. Job s'est insurgé contre cette accusation à peine voilée. Oh, il sait bien qu'en l'homme, il n'est pas de justice absolue. Il dit d'ailleurs, comment l'homme serait-il juste devant Dieu ? S'il voulait contester avec lui, sur 1000 choses, il ne pourrait répondre à une seule. Mais il crie néanmoins qu'il est innocent du crime que semble impliquer sa souffrance. Non, là n'est pas l'explication de son mal. Les trois amis de Job sont convaincus que l'orgueil s'est emparé de lui. Ils sont irrités de le voir s'obstiner à nier sa culpabilité. C'est alors qu'entre en scène un quatrième personnage, Élihu. Cet homme suggère que la souffrance n'est pas toujours un châtiment, mais qu'elle est parfois le moyen dont Dieu se sert pour purifier l'homme de ses imperfections et le rendre plus fort en vue des épreuves à venir. Élihu parle trois fois, et Job s'apaisera un peu, car cette deuxième hypothèse n'est pas dénuée de vérité. Il est vrai que la souffrance est parfois un moyen de purifier, mais la perplexité de Job demeure, car la purification comme le châtiment est proportionnée à la gravité de la faute, ou à la masse des souillures à enlever, comme dit le commentateur Frédéric Godet. N'y a-t-il pas une autre explication à ma souffrance, pense Job ? Une autre explication que celle qui me fait envisager Dieu sous l'aspect d'un juge implacable, constamment à l'affût des moindres trébuchements de sa créature, prêt à châtier ou à purifier ? Tandis que ses amis s'éloignent de lui, Job se rapproche de Dieu. À défaut de réponse à ses « pourquoi », il se jette éperdument à la rencontre de Dieu, à la recherche de Dieu, son seul refuge. Je ne comprends pas, mais Dieu est juste. Un jour, son innocence éclatera. Dans des passages où la pensée de Job s'élève en une vibrante espérance, il s'exclame « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Or, Dieu se révèle à Job dans deux discours. Il ne lui dit rien du défi que lui a lancé l'adversaire. Il se contente de lui rappeler qu'il est le Créateur. C'est lui qui régit l'univers, qui maîtrise l'orgueil des flots et qui commande aux étoiles. Il suffit à l'homme de se confier en sa providence, sans perdre son temps et sa foi, à obscurcir ses desseins par des discours sans intelligence, sans mettre en doute la sagesse de ce qu'il fait et de ce qu'il permet. Mais il nous faut conclure. J'emprunterai ces dernières remarques à l'excellent commentateur Frédéric Godet, qui, à mon avis, a su exprimer d'une manière lumineuse le message profond de cette œuvre exceptionnelle qu'est le livre de Job. Pourquoi souffrir? Eh bien, nous l'avons vu, Satan en veut avant tout à l'honneur de Dieu. Et il sait parfaitement que le coup le plus sensible qu'il puisse lui porter, c'est de nier que Dieu soit adoré et aimé avec désintéressement par un être quelconque. L'épreuve de Job est précisément destinée à lui démontrer le contraire. Il est des cas où Dieu inflige la souffrance à l'homme, non en raison de ses péchés accomplis et à expier, ni même en vue de ses dispositions morales à améliorer et des fautes qu'il pourrait commettre, à prévenir, mais en vue de lui, Dieu, et de son propre honneur. Il est alors donné à l'homme de jouer un noble rôle dans l'univers, celui d'être le vengeur de son Créateur outragé et de faire éclater sa gloire jusque dans des sphères supérieures à celles de l'humanité. Cet enfant rachitique, prêt de quitter la vie après n'en avoir connu que les douleurs, cette mère qui, après 20 ans de maladie, va bientôt quitter cette vie, privée du bonheur d'élever elle-même sa jeune famille, ce père probe et laborieux, qui voit la fleur de sa force se flétrir au souffle d'un mal incurable, et cela au moment même où son travail serait le plus nécessaire à ses enfants. Ce négociant irréprochable, qui pour n'avoir pas consenti à commettre une bassesse, se voit exposé avec les siens à la honte de la banqueroute et à toutes les privations de l'indigence. Ils feront avant tout le compte de leur voix et sonderont leur cœur. Ils s'humilieront sans doute s'il y a lieu au souvenir du passé et à la vue des souillures qui abondent au-dedans d'eux. Mais si après tout cela, ils trouvent encore dans leur infortune quelque inexplicable reste, qu'ils se gardent de se laisser entraîner comme Job dans certains moments au doute à l'égard de la sagesse et de la justice de Dieu, et qu'ils se disent « Dieu veut me donner à moi, chétif, l'occasion de montrer que je l'aime pour lui, malgré les épreuves dont il m'accable. Ma mission est maintenant de souffrir joyeusement pour lui. Peut-être, à cette heure, mes douleurs docilement acceptées seront-elles un holocauste dont la fumée montera jusqu'aux cieux des cieux. Et Dieu va-t-il remporter par moi une victoire éclatante sur son adversaire et sur le mien ?»